Nous sommes mercredi 15 avril 2020, vous êtes devenu trafiquant de navets et nous sommes dans le dojo bar.
Bah!
C'est les interludes.
Voilà, c'était donc le...
C'est parfait.
C'est parfait. C'est parfait. Bonsoir à tous.
J'étais sûr qu'on sera en direct.
On est parti en couille. On est sorti en couille, on rentre en couille. C'est un peu...
Alors non, on n'est pas sorti parce que nous n'avons pas d'attestation.
Voilà. Ah non, on a une attestation du Dojo Bar, on l'a toujours. C'est le seul bar de France qui est encore ouvert, hein, je vous rappelle.
Mm-hmm.
Voilà. Ça me fait plaisir. Je suis désolé à tous les tenanciers de bar qui pourraient nous écouter et qui vont probablement perdre leur travail.
Hein, enfin, depuis que tout le monde joue Animal Crossing.
Quelle horreur.
Depuis que tout le monde joue Animal Crossing, des bars, il y en a tout le temps.
Oui.
Voilà.
Ah ça, non, c'est fait. Je l'ai pas, celle-là.
Moi, je ne cautionne pas ce genre de choses.
Le bar est un poisson commun que l'on trouve généralement dans les rivières tout au long de l'année, quel que soit l'horaire.
Parce qu'il y a le bar et il y a le bar commun qui se trouve dans l'océan.
Ouais.
Et c'est pas le même que le bar tout court, ce qui n'a aucun sens.
Ce qui n'est pas le même que le bar tabac.
Dans les bistrots.
Il y a normalement les jeux de droite.
Alors, ce qui va se passer, c'est que un jour, on va vraiment faire une émission où on va lire la page Wikipédia du bar commun. Pas de problème. J'assume plus ou moins. Mais pour ce soir, c'était pas vraiment le thème, en fait. C'est... Bref, bonsoir à tous. Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Et oui, il n'est pas mort du Covid, contrairement à ce que vous pensiez. C'était la rumeur de la semaine.
Ce que je veux dire que le Covid-19, c'est parce qu'il a 19 ans, c'est ça? Ça tue les enfants de 19 ans.
Hein. Ça ne tue que les
même
personnes
pas capté.
De 19 ans.
Incroyable.
Ce qui serait quand même une bonne nouvelle. Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut tout le monde.
Qui ne travaille pas.
Si, je suis en télétravail toute la semaine.
Bah, parfait.
Mais en journée, hein, donc ça va.
Ah bah, donc ça va. Donc il ne sera pas interrompu par des problèmes éventuels de vrai travail, ce qui est quand même triste.
Oui, hein, c'était nul.
Ah, ça fait du bien. Donc au programme de ce soir, nous allons reparler de conservation du patrimoine vidéoludique, parce que nous avions abordé le logiciel de manière générale, nous avions abordé les questions de code source, nous avions abordé un petit peu de matériel, en fait, en réécoutant les émissions, je me suis rendu compte que la partie matérielle, on s'en était un petit peu occupé, mais... On voudrait parler un petit peu des questions de conservation, des prototypes, des firmwares, de ce genre de choses-là, parce qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits ces derniers mois et ces dernières années, notamment quelques anecdotes très rigolotes qui se sont passées il y a seulement quelques semaines. Donc on s'est dit, voilà, on va boucler le sujet une bonne fois, et parler effectivement de conservation de patrimoine une dernière fois. Comme ça, on aura à peu près balayé tout le sujet possible. Mais on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu, hein, les restes du monde, dont il ne reste plus grand-chose en l'occurrence. Et Mecton, puisque tu fais le malin, c'est toi qui vas commencer
du
avec
coup,
le jeu de Pokémon Go.
Oui, alors Niantic avait fait quelques cadeaux aux joueurs au début du confinement. Donc on pouvait récupérer une centaine de Pokéballs et pas mal de... je sais plus ce que c'était... Enfin, il y avait quelques objets qui étaient vendus à une pièce. Donc c'est absolument que dalle, quoi. Et là, dans la prochaine mise à jour, donc, ils annoncent la possibilité de faire des raids à distance. Donc du moment qu'ils sont visibles sur votre radar, vous pourrez cliquer dessus et y accéder. Sachant que déjà dans la version courante, la zone... Enfin, il n'était pas nécessaire d'être vraiment au pied du raid pour y accéder. La zone de tolérance avait été vachement augmentée.
Tu pouvais faire un raid avec Joe de l'autre côté de la rue.
C'est ça. Il n'y avait pas besoin de descendre en bas de son immeuble et de se donner rendez-vous au pied de la fontaine.
Donc ça,
c'est rigolo. Ouais. Et pour moi, le joli move de cette prochaine mise à jour, c'est qu'il y aura une quête journalière à faire depuis chez soi.
Ah, et donc, alors, est-ce que c'est genre, effectivement, aller pêcher un Magikarp dans tes chiottes ou un truc
bon,
comme ça
va être une connerie, ça va être clic sur ce bouton, merci, à demain, quoi. Mais bon.
Tu n'as pas bougé de la journée, c'est bien, tu peux cliquer sur le bouton.
Bah, ça reste dans l'esprit de Pokémon Go.
Oui, pas très utile, mais...
L'esprit de base de « tu ne bouges pas de chez toi ».
Et comme Pokémon Home, c'était déjà pris.
Oui, voilà. Bon, mais bon, c'est rigolo de voir que effectivement il y a, des initiatives de ce genre-là qui arrivent, surtout pour un jeu comme Pokémon Go qui avait fait sortir pas mal de monde, là, que Pokémon Go arrive à faire rentrer des gens chez eux, c'est plutôt rigolo, je trouve, dans le, dans le principe. Et puis voir faire des arènes avec le mec qui est dans l'immeuble d'en face, je pense qu'il y a quand même quelque chose, quoi.
Ouais, ça peut être l'occasion de farmer tranquille. Oh, ça va être sympa.
En tout cas, ça le fait. Je vais pour ma part vous parler un petit peu, enfin, de donner quelques petites nouvelles de la communauté du speedrun qui est en effervescence en ce moment, parce que imaginez bien, vous avez plein de gens qui sont en train de speedrunner des jeux en restant chez eux.
Saloperie de speedrunner.
Saloperie de speedrunner. Et donc, il y a notamment deux très 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 importants records qui ont été battus sur GoldenEye et Perfect Dark. Alors, Perfect Dark est un jeu qui est toujours énormément runné comme GoldenEye, hein. La particularité de ces jeux, c'est qu'on compte le temps dans le jeu, ce qu'on appelle le in-game time. Et en l'occurrence, le in-game time pour GoldenEye, c'est très compliqué puisqu'il est arrondi à la seconde. Si vous vous rappelez de GoldenEye, en fait, quand vous finissez un niveau, vous appuyez sur Next, vous arrivez à la prochaine page en fait, du niveau, et ça vous dit bah, vous avez fini le jeu, hein, enfin vous avez fini le niveau en 0,24 secondes. Pareil pour Perfect Dark, tout est arrondi à la seconde. Donc vous imaginez bien qu'au bout de 20 ans, quasiment, les records qui descendent d'une seconde complète, c'est un phénomène qui est quand même extrêmement rare. Mais genre, ça devient très très compliqué. Et justement, là, il y a deux records très très intéressants qui sont tombés. Il y a le record de War, qui est un niveau de Perfect Dark, un des niveaux bonus, où on incarne, vous savez, les petits gris, là, je sais plus comment ils s'appellent, des... genre Elvis.
Ouais, c'est des aliens.
Ouais, c'est enfin, l'alien à la con. Et War, en fait, est un niveau très très simple dans lequel il suffit d'aller tuer le roi Skedar, je sais plus où, avec l'arme qu'on te file, et puis c'est tout. Donc c'est un record qui était à 25 secondes, ce qui est assez balèze, en fait, depuis 2001. Je sais pas si vous imaginez, ça fait 19 putains d'années que le record avait pas bougé.
Ok.
Et donc, bah, y a un speedrunner qui s'appelle Perfect Ace, qui est un spécialiste de ce niveau, qui depuis des années... run le jeu, il a commencé à runner Perfect Dark alors qu'il avait 6 ans, je sais pas si vous imaginez le truc, donc le mec a eu des records du monde à l'âge de 6 ou 7 ans, donc dans les années, je crois que c'est 2002-2003, et le gars arrivait déjà à égaler ce record-là sur War, de 25 secondes donc, alors qu'il avait 7 ou 8 ans. Et le mec s'est dit il y a quelques mois, bah allez on y va, on le bat, et le gars a donc fait tomber le record à 24 secondes.
Waouh.
Donc tu sais, c'est le truc de ouf, hein, tu te rends pas compte, c'est...
Ah ouais.
Tout le monde s'était dit, celui-là, il tombera jamais. Et en fait, il a fini par tomber. Et pareil, alors, il y a un certain Eric Bergman qui a fait tomber un autre record très intéressant, celui de Runway en nageant. Donc ça, c'est sur GoldenEye. Alors, GoldenEye, il y a 4 niveaux qui sont appelés les Boring Four, parce qu'en fait, c'est 4 niveaux qu'il est très 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 simple d'arriver à speedrunner et à égaler le record du monde. Il suffit simplement de s'y mettre un coup. Il y a Archive, Bunker 1, Runway et Dame, et en fait c'est tellement énorme que Archive, il y a je crois 200 ou 250 personnes qui ont le record du monde actuellement.
D'accord.
C'est, en fait il suffit juste de persévérer un peu et vous allez finir par y arriver, en gros. Pour ça qu'ils sont appelés The Boring Four, c'est-à-dire les 4 niveaux ennuyeux, et finalement personne n'est arrivé à descendre ces records pendant de nombreuses années. Il se trouve que l'année dernière tous les records de ces niveaux sont tombés, sauf un qui était Runway. Alors Runway c'est le niveau en fait où vous devez récupérer la clé d'un baraquement et foncer vers l'avion. Donc c'est le niveau le plus con du monde en nageant, hein, c'est on ouvre la porte, on récupère la clé, on va vers l'avion. Même en temps normal, tout le monde a réussi à faire moins d'une minute sur ce truc-là, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et donc le record du monde était coincé à 22 secondes, donc personne n'arrivait à faire en dessous, il y avait je crois 150 ou 200 personnes qui l'avaient égalé, enfin c'est vraiment le grand n'importe quoi. Et ce mec-là, Eric Bergman, qui était connu de la communauté comme étant un speedrunner plutôt moyen, bah, il s'est donné un seul objectif pendant un an et demi, c'était battre ce record-là parce qu'il savait que c'était faisable. Il a utilisé plein d'astuces complètement pétées pour arriver à calculer des temps intermédiaires, arriver à calculer des frames et tout ça, et il a fini par le battre. Et donc il a fait tomber pareil un record qui date de plus de 14 ans, et qui ne sera probablement pas rebattu avant au moins 14 ans maintenant, parce que gratter une seconde supplémentaire, ça va être très compliqué.
Du coup, c'est comme Mario Bros, ils vont devoir calculer à la frame près.
Bah non, parce qu'en fait, la communauté a décidé que de toute façon, ils calculeraient à la seconde, et c'est tout, c'est comme ça.
Alors, en parlant de speedrun, il y a Doom Eternal qui se finit en 30 minutes.
Oui, j'ai vu ça aujourd'hui.
Ils l'ont déjà pété, du coup.
Bah oui. Ils l'ont complètement cassé.
Hein. Oh.
Un jeu de 12 heures fini en 30 minutes. Et même pas avec un gros glitch en plus, le pire c'est ça, hein. C'est même pas avec un énorme truc.
Arrête, il passe à il survole la moitié du niveau.
Bah oui, mais avec une mécanique qui est presque prévue. Presque.
Oui, c'est le terme important, presque.
Presque. Antix, puisque tu fais le malin et que tu fais du bruit depuis tout à l'heure.
Désolé.
Il paraît que tu voulais nous parler de 2-3 petites choses dans Animal Crossing New Horizons.
Ouais, alors, je pense que vous êtes au courant de l'existence de Animal Crossing, hein, petit jeu sorti au début du confinement.
Petit jeu indé sans grande importance.
Hein. Voilà, on soupçonne encore que... En tout cas, les plus grands amateurs de théorie du complot, notamment les platistes et les cylindristes, soupçonnent encore que le Covid-19 est une manipulation de Nintendo pour pouvoir vendre plus de jeux. On en saura peut-être plus à l'E3. Tout ça pour dire que...
Nous sachons.
C'est pour dire que cette gentille simulation de création de village sur une île n'a pas échappé aux griffes du capitalisme néolibéral, puisqu'on a pu voir apparaître depuis quelques jours sur certaines îles des marchés noirs pour... notamment profiter des meilleurs prix au niveau des navets. C'est un tweet de la twittosphère française qui nous rapporte cette info. En effet, il existerait une île quelque part dans le monde où pour pouvoir atteindre le magasin depuis l'aéroport, il faut payer pour pouvoir passer, puisqu'une personne armée d'une hache bloque l'entrée vers ce chemin.
Journalisme total. Hein.
Toujours dans cet objectif de journalisme total, nous avons aussi découvert hier, grâce à une investigation particulièrement longue sur Facebook, à force de scroller, je me suis tapé les pubs.
Élise Lucet dans Animal Crossing.
Exactement. Nous avons découvert que un marché parallèle de clochettes a été mis en place sur le net. Ainsi, pour ceux qui connaîtraient les grandes heures de World of Warcraft, où des gens venaient vous aborder sur le chat pour vous vendre directement des pièces d'or contre de la monnaie, sonnante et trébuchante, bien réelle, elle. Et bien, les microtransactions non officielles d'Animal Crossing, elles aussi débarquent. Ils désormais des sites pour permettre d'acheter des clochettes en masse, comme on dit au Québec.
Quel est le taux clochette vie réelle, a priori, là ?
Eh bien, écoute, malheureusement...
Est-ce que c'est plus intéressant que le Bitcoin ?
Farbartanukichinois.com Merci Victor.
De rien.
Écoute, je ne suis pas allé investiguer jusque-là, mais effectivement, il se peut que ce marché parallèle pourra peut-être vous permettre de sortir de la crise ou au moins de vous payer une baraque plutôt qu'un 20 mètres carrés en plein milieu de Paris. Donc ça, c'était pour la partie droite Animal Crossing. Maintenant, on va partir un petit peu à la partie gauche. Puisque je rappelle que...
En bas à gauche.
et donc à gauche toute, hop, un petit virage. Donc je rappelle que étant le jeu de confinement, eh bien, vous êtes confinés, vous ne pouvez pas sortir chez vous. Qui dit pas pouvoir sortir chez vous, dit pas une manifestation. Je pense que le préfet allemand et le gouvernement français vous remercient. Toutefois, ça n'a pas empêché les Gilets jaunes, eh bien, dès le début, dès la sortie d'Animal Crossing, de faire des manifestations dans le jeu. D'autres pays qui aussi sont dans une période de contestation sociale ont aussi joué le jeu. Ça a notamment été le cas et pas de Hong Kong. On avait déjà parlé du joueur hongkongais de Blizzard qui avait manifesté son soutien à ses contemporains hongkongais. Et bien là, Animal Crossing a été banni de Chine par le gouvernement chinois à cause des manifestations des hongkongais dans le jeu.
Banni de Chine, je suis quasiment sûr qu'il y a une contrepétrie, mais je ne le trouve pas. C'est juste...
Ouais, je te laisse chercher, hein, il y a encore 1h30 d'émission.
Oui, non, mais voilà, mais c'est juste...
Donc voilà, c'est dire à quel point Animal Crossing est vraiment un jeu dans l'air du temps, puisqu'on y retrouve à la fois des manifestations et des manifestations du capitalisme le plus rampant. C'est magnifique. Et je pense qu'il nous fallait bien un jeu comme ça pour atteindre ce genre de camoulox vidéoludique en pleine période de confinement.
On va finir d'ailleurs avec un petit truc un peu plus léger, parce que pour dire, mais c'est très politique ce jeu.
Un peu plus que d'habitude.
Un petit mot sur
comme
les...
tous les PMU de France.
Exactement.
Ils sont tous fermés, il faut bien qu'on les remplace.
On est tous venus les spécialistes politiques de comptoir.
Nous, on l'a toujours été. On va glisser un tout petit mot sur le nouveau firmware de la Switch, parce qu'il a une fonctionnalité intéressante.
Les icônes Animal Crossing.
Voilà.
Ça fait grippe maintenant.
Je savais que tu allais dire ça. Je te connais, je savais que tu allais dire ça. Non, il y a une nouvelle fonctionnalité intéressante qui est on va enfin pouvoir rendre Dark Souls jouable parce qu'on peut changer la configuration du bouton est confirmé avec ce putain de bouton A et annulé avec ce putain de bouton B, comme il a toujours été prévu. Je veux dire, Dieu nous a donné un bouton A à droite du bouton B, c'est pour s'en servir pour valider. Donc je sais pas qui est le connard qui a inventé le fait de valider avec le bouton du bas, mais ça n'existe pas, ça.
Si le jeu te viole dès le menu, c'est tout.
Non mais voilà, il y a plein de gens en fait qui attendaient ça, alors, non seulement parce qu'on peut pas remapper les touches dans tous les jeux, puis ça exigerait des mises à jour pour tous les jeux. Là, le fait de pouvoir le faire au niveau de la console, directement au niveau du firmware, et pouvoir sauvegarder jusqu'à 5 profils, me semble-t-il, au global. Donc c'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'on peut charger un profil par défaut, et on peut charger un profil en gros par jeu ou par type de jeu. C'est quand même sympa, il manque encore 2-3 trucs apparemment dans le remapping de boutons, notamment... on ne sait pas pourquoi on peut pas remapper les gâchettes analogiques. Ah, attendez.
Il y en a pas.
On me fait signe qu'il y en a pas. C'est peut-être pour ça. Il y a quelques trucs qu'on peut pas remapper. Genre, il me semble qu'on peut pas changer la zone morte sur les sticks, par exemple. Et il y a 2-3 autres trucs de ce type-là qui sont pas encore possibles. Mais c'est quand même plutôt une avancée. Je pense notamment effectivement à tous ces jeux qui inversent A et B pour valider, notamment dans les menus. Enfin, moi, ça me rend fou.
Tous ces jeux qui ont été mal portés. Hein.
C'est exactement ça, parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est la plupart de ces jeux, quand ils sont sur PS4 japonaise, bah, ils valident avec rond. Je suis désolé de vous le dire, donc le bouton de droite, pas le bouton du bas. Il y a que les PlayStation européennes, enfin occidentales en fait, où on valide avec X et on annule avec rond. Sur les PlayStation japonaises, on valide avec rond et on annule avec X. Mais c'est un réglage a priori de firmware, d'ailleurs, aussi sur le PlayStation.
Ok. Bref,
c'est quand même intéressant à savoir aussi. Bref, donc ça permet quand même de faire ça, ça permet pour certains d'obtenir des options d'accessibilité, notamment aller remettre un bouton ZR qui serait mal placé à la place d'un bouton Y ou ce genre de choses-là. Je pensais à Demon X Machina où de temps en temps, enfin sur la bêta, on pouvait pas booster en même temps qu'on se dirigeait parce que le boost était sur Y et en fait il faut quand même jouer avec le stick droit en même temps, c'était pas terrible. Là on aurait pu le corriger directement sans avoir besoin d'aller retoucher aux touches du jeu. C'est plutôt pour ce genre de choses-là, je pense que ça a été pensé. Ou ben si t'avais envie effectivement de mettre le saut gros cul de Mario sur le clic d'un stick, pourquoi pas, ben, tu peux le faire. Si ça
après faut pas que les développeurs passent en mode feignant en disant oh, c'est bon, ils feront leur mappage de boutons eux-mêmes.
C'est le risque hein, quand même.
Bah après l'avantage c'est que maintenant que la fonction existe, au moins on peut le faire pour tous les jeux. Le truc c'est que là on parle d'un truc au niveau OS, donc ça veut dire qu'effectivement c'est plutôt universel. Et puis en plus si tu dois retourner dans le menu de la console pour changer, c'est pas pratique.
Non, c'est pas pratique, mais c'est vrai que je me dis qu'une fois que t'as fait ton mappage et que t'as sauvegardé le profil pour Dark Souls, bah voilà, t'as fait ton mappage, t'as sauvegardé le profil, sachant que dans Dark Souls lui-même, tu peux aller remapper les boutons, c'est-à-dire que tu peux aller inverser A et B, tu peux aller inverser A et B dans le firmware, puis inverser A et B dans le jeu pour quand même avoir la touche saut au bon endroit, mais la touche validée dans les menus au bon endroit, enfin bref, vous voyez le bordel.
Ouais.
Ouais, donc tu peux quand même arriver à le faire, mais voilà, effectivement, pour les portages mal branlés, mais pas seulement pour les jeux où c'est pas prévu, pour les jeux où l'ergonomie est parfois un peu discutable, ou simplement hein, pour une question de confort. Moi, il y a un truc que j'apprécie énormément sur Switch, c'est qu'en fait, on peut tout piloter, toute l'interface, tous les menus, tu peux les piloter juste avec une main. Parce qu'en fait, avec juste la main droite et le stick droit et les boutons, tu peux naviguer dans les menus.
Mais ça pour le coup, pratique. C'est effectivement le fait de pouvoir... de pouvoir remapper les boutons, ce qui est intéressant alors pour de l'accessibilité, mais aussi moi j'ai beaucoup de fois où dans le métro je devais me tenir à une barre et je voulais jouer en même temps, sauf que bah du coup ben, les boutons pour valider et et le stick gauche n'était pas au même endroit, et je me dis avec ce genre de remappage tu peux peut-être justement créer des configs une main pour jouer dans le métro à la console, tu vois, genre avoir le stick droit et les boutons validés au même endroit.
Oui, c'est exactement ça que je pensais, c'est-à-dire qu'effectivement t'aurais pas tout, mais rien que pour naviguer dans les menus de la console, le fait que le stick droit puisse servir autant que le stick gauche, moi je trouve ça hyper pratique. Donc,
Bah ça c'est parce que tu peux utiliser les Joy-Con séparément, c'est ça qui est intéressant.
Mais j'imagine bien un Mario Kart, t'as envie d'y jouer à une seule main, tu mets l'accélération sur ZR, tu mets les items sur le clic du stick, et puis après, bah voilà, quoi, c'est réglé. Ouais, une carte à une main.
Bah, typiquement, moi, je pensais un jeu comme Fire Emblem ou un RPG tour par tour type Octopath, où bah, en fait, dans les combats, t'as pas besoin d'être au taquet sur les touches et de synchroniser tes deux mains en même temps. Bah, en vrai, un mode un stick, une seule main, moi, ça m'aurait bien plu. Et je crois que Bravely Default avait un mode comme ça,
où tu pouvais jouer avec juste une moitié, enfin avec le, juste un des deux côtés de la 3DS, je sais plus laquelle, où tu pouvais absolument tout manipuler avec les la gâchette et le stick, et tu pouvais vraiment jouer à une main dans le métro, ça marchait super bien.
Ben, c'est une bonne idée. Ouais.
Et c'est le genre de truc, effectivement, moi ça m'a beaucoup manqué sur beaucoup de jeux Switch, et clairement, ça, je pense que ça peut être un petit truc à exploiter aussi pour ce genre de cas, en plus des notions d'accessibilité que ça va inclure. D'ailleurs, je me posais la question, ils n'ont pas dit pourquoi ils avaient ajouté cette option à Nintendo.
Non, mais je pense que ça... Enfin, mon avis, ça répond aussi à la critique d'accessibilité qui est faite depuis longtemps.
Bah, je crois que c'est une des consoles les moins accessibles actuellement en termes d'options, donc ouais.
Et en plus, les boutons sont tout petits, les sticks aussi, enfin, mine de rien, il faut avoir la console... Enfin, si tu joues en mode portable, la console est dans ta main, ce qui est assez lourd. Si des gens ont des capacités physiques réduites, donc ça rend ton jeu aussi.
Ouais, pour le coup, de toute façon, moi, c'est toujours une option qui est bien, hein, de manière générale. Donc,
Bah, c'est le genre d'option, c'est bête, mais ça aurait pu être là dès le lancement, parce que finalement, ça entre guillemets, coûtait pas grand-chose. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même faut du test, faut du développement et tout ça, et la remarque était pas venue, mais c'est le genre de fonction dont on... Enfin, où il va falloir s'attendre à ce que ce genre de fonction devienne de toute façon un standard de facto de n'importe quelle console dans l'avenir. Je pense que ça fait partie de la même chose que les sauvegardes cloud. et ce genre de choses-là, c'est des choses qu'aujourd'hui les gens demandent. Et puis ça permet, alors même si, ce que disait Zergy, il ne faut pas que les développeurs deviennent feignants et ne te permettent pas de le faire dans le jeu, mais ça permet aussi de soulager les développeurs et de leur dire, ben voilà, si vous n'avez pas le temps de le faire, si vous n'avez pas pu le faire, si c'est trop compliqué à faire, bon, les gens peuvent se démerder.
Surtout que c'est bien pour la très grosse majorité des jeux Nintendo où tu ne peux pas remapper les touches. On a une tendance à oublier, mais chez Nintendo, on ne peut pas remapper les touches pour la grosse majorité des jeux. Alors, bon,
sauf enfin... Yoshi. Yoshi, tu peux remapper le saut, tu peux mettre sur B au lieu de A.
Ouais, tu vois.
C'est important.
Bah, c'est toujours ça, hein. Mais tu vois, par exemple, il me semble que Mario Kart ou même New Super Mario Bros, t'as pas le choix. Hein.
Non, clairement. Clairement. Ce qui fait que si t'as envie de sauter avec ZL et accélérer avec ZR, ce qui peut être une option d'ergonomie, hein, pourquoi pas, après tout, tu te sers de tes index, te servir de tes pouces, ça peut parfaitement se comprendre. Et encore une fois, je pense qu'un jeu comme New Super Mario Bros, en l'occurrence, ça pourrait aussi se jouer à une seule main, sans trop de problème. Tu mets la touche courir sur R et la touche sauter sur ZR, et puis problème réglé. Donc bon, de toute façon, toujours plus d'options, c'est toujours une bonne chose, et encore une fois, je pense que c'est un truc qui va devenir plus ou moins un standard.
Bah, je pense que clairement, sur la prochaine console de Nintendo, ce sera standard. Hein.
Oui.
Parce que ils n'ont pas intérêt de revenir en arrière s'ils ont déjà développé la fonctionnalité par le passé, quoi.
Surtout si elle est saluée par tout le monde, ce qui a quand même l'air d'être plus ou moins le cas. Mais du coup, moi, peut-être que je rejouerai à Dark Souls. Parce que ça m'évitera de me faire baiser dans les
Non, moi, je ne le fais pas pendant le confinement. Ouais. N'ajoute pas de la frustration à la frustration.
Attends, j'ai fini Resident Evil 3, c'est bon.
D'autant que Dark Souls, c'est 2 mois de confinement avec tes enfants.
Oui, c'est vrai que là, globalement, on en est à peu près là. Bref, nous allons marquer une petite pause musicale. Alors, j'ai choisi pour vous, pour cette petite pause musicale, un jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment, qui est New Super Lucky's Tale, qui est donc un jeu qui est sorti par Playful Studio, je crois. J'ai pas malheureusement le nom du musicien qui a composé tout ça. J'essaie de vous retrouver ça éventuellement. Un jeu qui est, ma foi, fort sympathique, qui est passé malheureusement un petit peu inaperçu et Playful a fermé dans la foulée une fois que le jeu était sorti, c'est un peu dommage. Lucky, c'est la fameuse mascotte qui était à l'origine la mascotte de la VR, qui est devenue la mascotte de la Xbox One, qui est devenue la mascotte de Sif. Le truc s'est prostitué à tous les coins de rue. Mais voilà, le jeu lui-même
est plutôt sympa. Hein.
C'est un peu sympa. Le jeu lui-même est vraiment très sympa, donc je peux vous le recommander, hein. C'est du platformer qui est plutôt simpliste, mais comme un Kirby, ça se laisse très très bien jouer, c'est vraiment très rigolo. Bref, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Sky Castle, qui est en fait le thème du tout premier monde, et on se retrouve dans 2 minutes 30, tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc, on nous dit effectivement dans le chat que pour la touche courir, dans les jeux, on préfère la gâchette au bouton B. Le bouton B, c'est pour sauter, c'est pas pour n'importe quoi, monsieur. Pareil, un truc que j'ai jamais compris, c'est les gens qui utilisent X et A pour courir et sauter au lieu de Y et B.
Ah oui, c'est étrange.
Oui, c'est quand même des trucs que je n'arrive pas à comprendre. Bref. Donc, le sujet principal de l'émission, c'est la conservation. Voilà, le voilà le chat. Merci. Très
bien. Le sujet, c'est le chat. C'est le merdier de cette émission.
C'est le chat. Oui, mais attends, c'est important.
Alors, le chat, animal noble, venu tout droit de l'Égypte antique.
Vous vénéré. Êtes une très coutumière, vénéré depuis l'Égypte antique.
Et spécialisé dans la destruction d'objets en tout genre de ses propriétaires.
Tout et que l'on peut niquer avec une simple boîte en carton.
Non, alors c'est pas niqué, hein. C'est comment on fait pour attraper un chat dans une boîte.
Poser la boîte, attendre.
Poser la boîte, attendre. C'est le principe.
En fait, tu mets juste du scotch en cercle par terre et il va se mettre dedans.
Non, vous vous trompez. Faut acheter un arbre à chat à 600 euros, mettre une boîte en carton à côté,
et attendre qu'il se mette dans la boîte. Voilà, et reconsidérer ta vie.
C'est pas mal, c'est à peu près ce que j'aurais fait. Et je vais essayer le coup du cercle en scotch, tiens, comme j'ai rien d'autre à foutre en ce moment. Je vais faire un cercle en scotch et je vais voir si ça marche. Parce que c'est quand même... Ce serait très étonnant.
Il est beau le peuple de bâtisseurs.
Attends, écoute, t'imagines pas. Bref, la conservation du patrimoine vidéoludique. On avait un peu abordé les questions de conservation du matériel, en se disant, bah oui, effectivement, toute console de jeu, borne d'arcade et autres... Et finalement quelque chose qui va être à terme obsolète. On n'a pas encore vu beaucoup de consoles Nintendo mourir, mais ça commence à arriver. On commence à avoir des NES qui commencent à mourir, c'est-à-dire où effectivement le processeur principal est grillé, c'est pas juste des composants parfaitement remplaçables qui échangeables d'ailleurs et qu'on change. On commence vraiment à avoir des morceaux de console qu'on peut plus réparer. Voilà, la RAM qui marche plus, bah c'est fini.
Jusque-là, c'était surtout l'alimentation qui était fragile, le reste, ça allait.
Bah, t'avais les condensateurs, quel truc.
Fragile comme. Oui. Je veux dire fragile comme n'importe quel transfo, mais.
Oui, c'est un peu ça, condensateur, transco, fusible. Fameux fusible de la Super NES. J'en ai remplacé déjà deux, moi, personnellement. Donc, voilà, t'as des composants qui sont des composants d'usure presque normale. Et puis, t'as des choses qui se remplace très 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 facilement aussi, hein. Ne serait-ce qu'un pont de diode, ça se remplace. Électroniquement, il y a plein de pièces très très génériques dans nos consoles, on s'en rend pas toujours compte, mais en fait, la plupart des fabricants se font pas chier à faire que des composants spécialisés. Ça change un petit peu avec les consoles modernes, je pense que sur des consoles à partir de la PlayStation 3, ça va commencer à devenir très compliqué, parce que t'as beaucoup de composants qui sont vraiment fabriqués exclusivement pour ces machines-là.
Et tu as de l'émotion.
d'un moteur d'émotion, là. Mais non, mais enfin, blague à part, il y a vraiment des composants, notamment sur la PS3, il y a des composants genre le Southbridge, qui est la puce qui permet de communiquer avec le disque, qui est en fait une puce consolidée, donc c'est pas plusieurs petits composants qu'on pourrait changer et trouver finalement chez l'épicier du coin, qui est fermé en ce moment, donc vous trouverez pas chez l'épicier du coin. Mais tu pourrais imaginer de les reconstruire sous forme de grosses boards avec tout ça, parce que finalement ça n'est que ça. Mais en fait, comme elles ont été consolidées dans une toute petite puce, cette petite puce, elle est fabriquée spécialement pour Sony, et le seul moyen d'arriver à s'en fournir une, c'est d'avoir une PlayStation 3 donneuse qui aurait un problème sur une autre puce, quoi. Donc tous ces composants-là sont voués à mourir d'une manière ou d'une autre. C'est très gênant, mais c'est voué à mourir. Et donc du coup, il y a quelques projets qui commencent à arriver, de gens qui essayent de ce qu'on appelle sabler les puces, pour arriver à en révéler les composants, et arriver à... on va dire, documenter le plus possible les différentes couches de silicium qui sont à l'intérieur, de sorte à ce qu'on puisse un jour éventuellement pouvoir les reconstruire.
Ok.
C'est assez tendu, mais on avait tweeté il y a pas longtemps un projet qui s'appelle... Alors c'est Unines de mémoire. Probablement dire une connerie, mais c'est pas très grave. Je le retrouverai. Et je le mettrai dans la description du podcast, désolé. Mais voilà, l'idée de ce projet-là, c'était effectivement de permettre à tout un chacun d'aller reconstruire une NES à quasi zéro.
Cool, ça.
Bah, moi je trouve ça plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt sympa dans le principe. Le truc, c'est que tu l'as pas sur toutes les machines, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup beaucoup de machines où malheureusement, les machines moins populaires notamment, où déjà il y a beaucoup moins de prototypes ou de consoles existantes qu'on peut vraiment triturer comme ça, parce que t'imagines que quand tu sables un processeur, bah, tu le détruis, basiquement, juste pour voir comment il fonctionne. Et je veux dire, je vois pas beaucoup de gens détruire un Jaguar CD juste pour pouvoir récupérer les puces qu'il y a à l'intérieur, quoi.
Parce que j'allais dire, en fait, t'es obligé de faire ça.
Oui, c'est intéressant. Non, mais t'es obligé de le faire, même si
t'as aucune documentation, quoi.
T'as rarement de la documentation. C'est arrivé qu'on tombe sur de la documentation quand même. C'est arrivé, apparemment, je sais. Alors, je crois que c'est la Master System, me semble-t-il, de mémoire. Hein, je cite ça de mémoire. Il me semble que c'est une console Sega où la documentation des fabricants a fini par se retrouver plusieurs années. Enfin, les mecs ont retrouvé genre le classeur dans lequel il y avait la documentation technique de la fabrication de la machine, et donc ça a été scanné. Et donc théoriquement, on serait capable aujourd'hui d'en refabriquer une. Théoriquement. Okay. Mais c'est le genre de document qui est rarissime parce que soit ça a été perdu, soit ça a été détruit, quoi, faut être clair. Très très peu de gens qui ont conservé ce genre de choses-là. Et c'est un problème, enfin c'est un vrai problème en arcade notamment. Parce que pareil, les machines sont plus rares. Même si t'as des machines très génériques. Mais je pense à des machines comme les CPS2 de Capcom. La machine qui a hosté notamment le légendaire Street Fighter 2, qui sont des machines qui ont une pile suicide qui justement auto-détruit le code de la ROM.
Ça flingue toute la carte, c'est ça?
Alors ça flingue pas toute la carte, ça flingue la RAM en fait de la carte. En gros, il y a une clé qui est contenue dans le tout début de la RAM qui est maintenue par une pile, qui est maintenue alimentée par une pile. L'idée étant qu'il y ait des CPS de pirates qui apparaissent sur le marché. Et donc Capcom a fait ça, ce qui fait que le jeu a quasiment jamais été piraté. Alors, je crois que c'est Street Fighter Alpha ou quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être pas Street Fighter 2 sur lequel les premières sur lesquelles ils arrivent à faire ça. Mais bref, il y a une clé de décodage qui est en RAM, et donc en fait, dès que tu arrêtes d'alimenter cette RAM pour essayer de dumper la ROM,
c'est paumé.
La clé est perdue, donc le code est perdu, donc il n'y a plus rien qui démarre. Alors, ça a été rétro-ingénieré il y a très peu de temps, je crois il y a un an ou un an et demi, il y a des gens qui ont réussi à casser la clé de chiffrement qui était utilisée par Capcom il y a 20 ans, pour arriver à la remettre en RAM et remettre une batterie, et donc à ressusciter matériellement ces cartes-là.
Ok.
Le problème, c'est pour une carte comme ça qui est ressuscitée, combien t'as de cartes de Taito dont on n'arrivera jamais à récupérer le code?
Et cette clé, c'est la même pour toutes les cartes?
Elle est unique par carte.
Unique par carte, ok.
Ah ouais, non, le temps, les mecs, ils ont fait ça sérieusement.
C'est vraiment la merde.
C'est Crapcom, hein, je veux dire.
Oui, oui.
Quand il s'agit de faire les gros enfoirés,
ça, on sait qu'ils sont sérieux pour ça.
Ah voilà, non mais là, c'est les mecs super sérieux. Je rappelle que c'est quand même les mecs qui te balancent un Nemesis alors que t'as plus de soins et que tu viens de te taper un boss. Hein. C'est quand même comme ça que ça se passe.
Une petite rancœur.
On sent les petites rancœurs de Resident Evil 3. Hein.
Petit peu, hein. Le serpent dans la fosse, enfin l'espèce de gros ver de terre dans la fosse, je l'avais un peu mauvaise.
Ah, t'inquiète pas, dans le remake du 2, quand tu commences ta partie la seconde fois, t'as un monsieur qui se balade dans le commissariat dès le début et t'as un liqueur au bout de 20 minutes.
Quelle horreur, mais il est pas tout nu le monsieur, c'est déjà pas si mal que ça.
Il a un trench coat qui résiste à peu près toutes les explosions, ce que je trouve assez impressionnant.
Mais attends, RE2, tu peux... Dans l'original, tu pouvais pas le tuer non plus, le...
Non, non. C'est à travers l'histoire, mais...
Oui, voilà, il est...
Alors, si, Mister X, tu le tues... dans le remake, tu le tues dans le scénario de Léon.
Oui, mais tu le...
Stop.
C'est à travers l'histoire.
Oui, c'est c'est un combat de boss.
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas le tirer dessus à mort.
Truc, quoi. Oui, voilà. C'est pas random. Par contre, tu lui fais retomber sur le chapeau, ça te fait un trophée, c'est rigolo.
Alors, ah ouais, on nous dit dans le... Voilà, t'aurais plus qu'à le faire, Galaxy.
Incroyable. Non, j'ai désinstallé le jeu. Attendez.
On nous dit dans le chat, les consoles à lecteur CD défectueux, est-ce que ça se répare bien ou est-ce que c'est galère? Bah, c'est justement très galère.
Je pense que défectueux, non.
Les PS1, tu peux encore choper des lecteurs optiques, des imitations.
Mais les imitations autres, chinoises.
Oui, voilà. Mais les autres, ça devient difficile.
Il me semble que le Mega CD aussi, tu peux arriver à rechoper encore des blocs optiques compatibles, parce qu'en fait, c'était des blocs optiques assez génériques qui étaient utilisés. Mais c'est vrai que ça va commencer à devenir compliqué. De manière générale, les consoles où il y a des parties mécaniques, on vieillit très très mal. C'est-à-dire qu'une NES, on arrive encore à la faire tourner aujourd'hui. Elle commence à mourir, hein. Il y a de plus en plus de cas de NES qui commencent à rendre l'âme, mais on y arrive.
C'est le Covid.
Non. Mais en fait, en même temps, la NES, elle est tellement bien documentée aujourd'hui que... et alors, Zergy, je sais pas si t'en as... Non, toi, t'as une Super NT Mini.
Oui.
Qui est vraiment un truc super cool, d'ailleurs. Faudra qu'on en
oui,
parle
non,
un
ah
petit
non,
peu.
J'ai pas la version NES machin, là.
Alors, il y en a deux. Il y a la NT Mini, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Non, Super NT, et il y a la... Pouf, je me souviens plus, qui est en fait un FPGA, donc on a reconstruit le hardware d'une NES en hardware dans une autre machine. Ce qui est quand même assez spécial comme concept, mais on connaît tellement bien la NES que finalement on a été capable de l'émuler matériellement.
Bah surtout, c'est chaud. Surtout la NES, enfin en tout cas la Famicom au Japon, et je crois que c'est aussi un peu le cas de la PlayStation côté Sony, c'est une console qui a eu un suivi SAV qui a été extrêmement long, parce que je crois que le SAV Nintendo s'est arrêté au début des années 2000.
Je crois qu'ils ont arrêté en 2003 pour la NES.
Voilà, pour une console qui est sortie en 83
au Japon.
83 au Japon, donc c'est 20 ans, mais c'est déjà pas mal.
Oui, 20 ans, c'est moi qui compte mal.
Ça sent que je pense que la Wii U n'est déjà plus pris en charge, ou un truc comme ça.
Non, ils ont déjà effacé la page Wikipédia.
Non mais du coup c'est enfin on parlait justement de la durée de vie, notamment des composants, et c'est vrai qu'aussi un truc qui fait que certaines consoles à mon avis je pense que le fait que certaines consoles aient tenu aussi plus longtemps que les autres, c'est le suivi qu'il y a eu au niveau constructeur, parce que mine de rien une console comme la NES qui a eu un suivi pendant aussi longtemps, il y a moyen de récupérer de la doc et ce genre de choses assez facilement, non?
Bah le truc c'est que aussi pour la par exemple, la Famicom au Japon, quand Nintendo a annoncé quelques mois avant qu'ils allaient arrêter de la supporter, t'as plein de gens qui ont ressorti leur Famicom, qui ont vérifié qu'il y avait même marché, qui l'ont renvoyé avant la fin de la prise en charge.
C'est pas con.
Oui, non, mais
du coup, ça fait aussi partie des aspects de sauvegarde du matériel, dans le sens où si le constructeur prend en charge encore la console pour la réparation, tu sais que les consoles vont tenir un petit peu plus longtemps aussi, quoi, si jamais il y a un souci.
Alors, d'ailleurs, pour les consoles SD, Bah justement, t'as toutes les consoles 32 bits ACD qui commencent un peu à crever au niveau du lecteur optique. La Saturn, ça fait uniquement depuis 2 ans qu'ils ont trouvé un moyen de se passer complètement du lecteur optique.
Et ça a été une sacrée gageure, hein. Ça tombe bien que t'en parles de la Saturn, parce qu'effectivement, le bloc optique de la Saturn était apparemment de ce que j'ai compris, c'est pratiquement un composant, c'est un peu comme la puce son de la Super NES qui est pratiquement une machine dans la machine. Le bloc optique de la Saturn, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a son propre OS, il a ses propres firmware, il communique de manière chiffrée avec la carte mère, enfin le truc est... C'est une espèce de...
Une boîte noire.
Chimère.
Boîte noire, enfin c'est un truc totalement fou.
Il n'y a pas
une pièce générique dedans, quoi.
Il n'y a pas aussi la Dreamcast qui a une réputation de lecteur CD assez foireux. Hein.
C'est un lecteur JDROM, c'est chaud.
Alors t'as plus de pièces de rechange. La Dreamcast, c'est un très bon exemple de console qui est en train de mourir. Simplement parce qu'effectivement il n'y a plus de pièces de rechange, et parce qu'en fait Sega avait retenu les leçons de la Saturn où le bloc optique devait leur coûter un bras et une couille théoriquement pour lutter contre le piratage et avoir un bloc optique de très bonne qualité, hein, donc pas de soucis là-dessus, qui faisait peu de bruit, qui contrairement à celui de la PlayStation s'enrayait pas, enfin bref il était vraiment excellent, mais il devait coûter une couille. Et donc du coup pour la Dreamcast, eh ben, ils ont pris le truc le plus cheap qu'ils pouvaient trouver. Et du coup, c'est un peu parti en couille.
Bon, sachant qu'en plus, à l'époque, Sega était financièrement déjà dans la merde, il me semble. Hein.
Oui, quand ils ont arrêté la Dreamcast, il y a les huissiers qui frappent à la porte. Hein.
Ouais, mais quand ils l'ont sorti, je crois que ça commençait déjà. Hein.
Bah oui, mais du coup, ça a pas aidé à faire du composant de qualité. Donc autant les je sais pas si les processeurs de la Dreamcast sont toujours... produits, mais globalement, un processeur, ça a quand même une durée de vie assez longue. Comme je vous disais, la NES commence à mourir. Hein. Donc, mais les SH4 ou SH6...
Je crois que c'est encore utilisé un peu dans l'embarqué, donc éventuellement tu vas peut-être en choper s'ils sont pas trop personnalisés par Sega.
Ouais, la problématique elle va être là aussi. Alors après, c'est d'où l'intérêt du sablage et aussi de la conservation d'un certain nombre de firmware et autres, c'est que ça permet aussi de reconstituer les personnalisations éventuelles qu'aurait fait Sega sur ces processeurs-là, à partir des données résultantes. Donc on peut éventuellement arriver à faire quelque chose, tu vois, et c'est pas... Voilà, il y a l'émulation qui permet effectivement d'aller récupérer quelques données sur la façon dont fonctionne la machine, mais il y a aussi le code résultant qui permet d'éventuellement parfois déduire la façon dont le processeur fonctionne. Ça reste un long shot, hein, tu te retrouves sur des gens qui bossent parfois pendant des mois pour arriver à essayer de comprendre comment fonctionnent les instructions d'une machine, mais on finit par y arriver. Enfin, pour l'instant... Oui.
Les gens qui font ça pour la gloire ou par pur altruisme et justement volonté de conservation, ou c'est juste de la curiosité, comprendre comment ça marche, et du coup ça arrange bien ce côté patrimoine.
Alors, à ma connaissance, c'est un peu les deux. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais un truc dont on avait déjà parlé à la dernière émission, mais je vais le réévoquer. Je trouve que c'est assez symptomatique de ça. Voilà, le chat est perdu. Hein, je peux m'excuser. c'est bon, mamie. Va te coucher. C'est pas possible. Il y a un côté conservation du patrimoine. Et on en parlera, je pense, juste après la pause musicale, parce qu'il y a des petites choses intéressantes qui ont été faites, notamment sur des prototypes de matériel et de logiciel, où là, c'est vraiment juste une volonté de conservation, de se dire, bah tiens, on a la version bêta de tel jeu. Alors, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas un jeu exceptionnel, mais... on a une version non finie, dans laquelle il y a des différences significatives par rapport à la version retail, qui finalement est, elle, déjà bien conservée, parce que la ROM a déjà été dumpée il y a longtemps, on a toutes les versions et tout ça, mais voilà, on a cette volonté de garder ce truc-là. Mm-hmm. Donc le mec qui a rétro-ingénéré le bloc optique de la Saturn, il y avait le côté défi, le côté bah, je vais arriver à rentrer dedans, à craquer le code et à faire ce que je veux avec.
Donc petite prouesse perso, du coup.
Petite prouesse perso, je pense que ça fait bien sur un CV, si tu cherches un job dans une boîte qui fait de l'électronique. Ouais. Bah, voilà, t'as rétro-ingénéré ça veut dire que t'es quand même pas si mauvais que ça. Il y a un côté don à la communauté, la plupart des projets de conservation de ce truc-là, la reconstruction d'une NES au complet, c'est un truc qui est en open source. Les mecs qui ont fait GCHD, qui est la reconstruction de la puce qui permet de faire du HDMI sur GameCube, donc il est à l'origine sur GameCube pour pouvoir faire du component, il fallait avoir la fameuse prise digitale à côté de la prise analogue et brancher un câble qu'on ne pouvait commander que chez Nintendo pour le brancher en component. Comme on pouvait le commander que chez Nintendo, bah, personne ne savait comment il fonctionnait. Il utilise une puce custom et donc bah il y a des mecs.
Et pas en Europe en plus. Hein.
Et pas en Europe, ouais. Parce qu'en Europe elle n'était pas compatible avec le 480p. Et donc il y a des mecs qui ont décortiqué cette puce pour la reconstruire, mais simplement parce que bah, le prix des câbles component GameCube était délirant. Donc c'était à
donc
la fois
là, c'est un peu piratage militant du coup.
C'est presque ça. Ouais. T'as le côté,
de toute façon, c'était plus produit depuis longtemps, donc c'est pas très grave.
Nintendo s'en battait les couilles. Les mecs qui l'ont fait ont clairement dit le jour où Nintendo nous dit d'arrêter, on arrête. Mm-hmm. Et Nintendo a jamais rien dit parce qu'en fait, ça les arrange peut-être bien aussi finalement qu'on continue à parler de la GameCube. Je sais pas, c'est possible, hein, mine de rien. Et mais c'est intéressant parce que t'as le côté défi. T'as le côté rendre effectivement à la communauté, c'est-à-dire permettre à tout un chacun d'aller construire ton câble HDMI GameCube, d'aller faire n'importe quel projet avec, parce que finalement les mecs ont juste reconstitué la puce, mais ils s'attendaient pas à ce que les gens fassent des HDMI avec tout un tas d'options complètement folles dans les firmwares, enfin... Voilà, ça a créé une certaine émulation qui fait que tout d'un coup, il y a des gens qui se sont mis à racheter des GameCube, il y a des gens qui se sont mis à bricoler des GameCube HDMI en interne, en externe, en plug and play, en... Voilà, qu'on commençait à faire plein de bordel avec, et c'est rigolo, quoi. T'as vraiment ce côté gameplay émergent, entre guillemets. Ouais. Et après, t'as aussi le côté, t'as aussi un peu le côté patrimoine, où des gens se disent, bah, grâce à ce qu'on a fait, peut-être que dans 50 ans, si on est encore vivant, il y a des gens qui arriveront à faire une Saturn sur une puce qui soit précise au cycle près, et on pourra vendre une Saturn Mini, Sega pourra vendre une Saturn Mini où on pourra mettre des vrais CD de Saturn, ou alors t'auras des ROM directement dedans qui fonctionneront.
Ok.
Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est quand même un truc un peu important.
D'être capable de
constituer ça. Bref, j'ai vu où on en était, mais c'était bien. Est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse une petite pause maintenant? Et qu'on se finisse tranquillement après. Pas de...
Oui,
bref, donc on va faire une petite pause. Parce que c'est vrai que le sujet est quand même extrêmement intéressant, mais malheureusement un petit peu long. Et on va s'écouter de nouveau un petit morceau de la bande originale de New Super Lucky Stale, Le morceau s'appelle Stuck in Paradise, ça doit être le 3 ou 4ème monde, c'est un niveau du 3 ou 4ème monde.
Un morceau sur le confinement.
Effectivement, coincé au paradis.
Alors après, ça dépend à quoi ressemble votre paradis.
Ah bah écoute, apparemment il y a des navets maintenant au paradis. C'est ce que j'ai compris.
Alors attention, il y a peut-être des marches noires de navets aussi.
Ah oui, mais le paradis est-il un endroit de droite?
Oui.
Bah, écoute, c'est une conception judéo-chrétienne. La religion judéo-chrétienne, c'est droite.
Ouais, clairement, oui.
Le paradis est droite.
Super.
Tu feras un peu de pauvreté, mais toi d'abord. Hein.
Parfait. Bref, bon, allez, on s'écoute ce petit morceau-là. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Nous voilà de retour.
Oh
là, c'est pour de vrai. Mortal, tu couperas au montage.
Ah, quoi.
Et donc, on va terminer cette émission avec deux prototypes rarissimes de matériel. Jusqu'à présent, on a parlé effectivement de consoles qu'on essaye de documenter le plus possible, de puces qu'on essaye de documenter le plus possible, qu'on essaye de reconstituer en matériel, en logiciel, qu'on essaye vraiment de se débrouiller pour que le truc fonctionne, quoi. On a parlé de jeux, on avait parlé de préservation des prototypes, des bêtas, des ROM, enfin, voilà, d'arriver effectivement à se débrouiller pour que tout ça soit conservé, de conservation de code source, puisqu'on a eu de magnifiques fails, notamment de la part de Square.
Ah, oh, il est incroyable.
Incroyablement bien résumé par Mecton, d'ailleurs, qui a fait une traduction
alors,
remarquable.
C'est pas par moi, ouais, c'est par quelqu'un qui l'a fait, j'ai juste traduit son texte, je vous rebalance le lien, mais c'est incroyable.
C'est absurde, enfin, je sais pas si tout est vrai, il y a peut-être un peu de romancé, il y a peut-être un peu de... Mais c'est incroyable. C'est incroyable à lire, c'est absolument... C'est écrit pratiquement comme un roman, en plus. C'est incroyablissime de voir à quel point certains développeurs négligeaient totalement la conservation de ça, à tel point, d'ailleurs, et on en avait déjà parlé, que Final Fantasy VIII sur Switch, c'est en fait la version PC émulée. Les mecs qui ont décortiqué la ROM du jeu Switch se sont rendus compte que c'était la version PC qui était émulée. Tellement les mecs sont à la rue et qu'ils ont plus le code source. Ils n'ont même pas recompilé pour Switch. Ils ont juste écrit un émulateur X86 pour Switch, quoi. C'est complètement délirant.
C'est dingue.
Donc les questions de conservation étaient très longtemps négligées. C'est plus le cas depuis quelques années, puisque maintenant qu'on peut revendre très facilement un Final Fantasy VIII sur Switch à 10 balles, bon bah, du coup, ça devient vachement intéressant de conserver correctement ses codes, quoi, pour pouvoir reporter les jeux. Comme ça qu'on voit débarquer des Jedi Knight et des Jedi Academy.
Ah, surtout que pendant très longtemps, les Japonais ont considéré que le jeu vidéo c'était un produit, donc passé un moment, on se fait chier à le garder. Non,
c'est ça, ne pas se passer les deux premières semaines de commercialisation, je vois pas l'intérêt, quoi.
C'est ça leur foutait, donc ils foutaient tout à la poubelle et terminé, quoi. Mais il y a Square Enix, il y avait aussi l'histoire avec Kingdom Hearts où ils ont dû refaire le jeu de zéro pour le portage HD.
Ah, mais il n'y a pas que celui-là, regardez l'article, c'est ouf.
Mais c'est extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire à lire, hein, parce que c'est.
Le développement de FF14, c'est un chef-d'œuvre.
Mais attends, le portage PC de Final Fantasy VII, c'est pété quand tu regardes le truc. C'est totalement pété.
Comme on parlait de FF8, l'anecdote pour la localisation, l'équipe américaine en charge de la trad n'avait pas les sources des cinématiques. Du coup, ils ont dû éditer frame par frame là où il y a des textes pour les remplacer.
C'est ça alors?
D'ailleurs, il y a une dernière anecdote sur Final Fantasy, alors le 7. Quand ils ont voulu le porter sur PlayStation 4, en fait, ils ont été obligés de refaire le jeu intégralement. Et ça prenait tellement de temps qu'ils ont réussi à faire que la première partie qui est sortie. ok, la fameuse bullshit.
Ça commençait bien.
Fake news. Bref, On va finir sur les questions de matériel. Donc on a parlé de la conservation du matériel d'arcade, qui est peut-être plus compliqué que les consoles parce qu'elles sont produites en moins grande quantité.
Et que ça prend de la place.
Ça prend de la place, mais voilà, le projet MAME fait ça depuis très longtemps, la conservation de l'arcade et l'émulation de l'arcade. L'avantage de l'arcade, c'est qu'en fait, on a des composants qui sont beaucoup plus génériques. Donc finalement, c'est des processeurs très génériques et tout ça, parce que comme c'est produit à très très peu d'exemplaires, à part quelques exceptions, on a parlé du CPS2, généralement, c'est quand même des composants les plus standards possibles pour éviter que ce soit... que ça coûte trop cher à produire. Parce que malgré tout, il faut quand même arriver à les vendre, les cartes d'arcade, à des gérants qui vont les acheter, enfin les maintenir pendant quelques mois ou quelques années. Donc finalement, l'arcade, c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'exemplaires disponibles des boards elles-mêmes, mais généralement, c'est des boards qui seraient presque très faciles à reconstruire. C'est pratiquement que des composants qu'on trouve sur étagère. Généralement, c'est pas toujours le cas, mais dans la grande majorité des cas, c'est ça. Il y a quelques exceptions, je parlais en préparant l'émission de Gradius. Alors Gradius utilise un truc qui s'appelle la mémoire à bulles.
Ah, c'est génial.
Un truc révolutionnaire dans les années 80 qui allait permettre d'exploser la quantité de RAM ou de ROM, je sais plus exactement, qu'on allait pouvoir avoir sur les machines.
Le cancer. En fait,
voilà, est tombé en désuétude très vite parce que c'est des mémoires qui ne tenaient pas la route. C'est au bout de 6 mois, genre, la mémoire est morte. Et donc Gradius, l'original, la board originale, il n'y en a pas une seule qui a survécu. Elles sont toutes mortes parce qu'elles utilisaient toutes des mémoires à bulles.
Et c'était quoi le principe? Je sais pas si tu le connais, le mémoire magnétique, pour expliquer.
C'est, en gros, c'est une mémoire magnétique. Exactement. D'accord. comme les cassettes audio, les cassettes vidéo, les trucs comme ça. Donc la mauvaise idée, tu vois.
Ouais. En gros, t'imagines s'il y en a une qui avait survécu jusqu'aujourd'hui, le premier connard qui rentre dans une salle, il pose son téléphone dessus, morte.
Bah c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est Gradius, en fait, le seul code qu'on... Enfin, la version d'origine, elle a littéralement disparu. La board d'origine ne peut plus techniquement fonctionner. C'est pété quand ils pensent, hein. C'est vraiment...
Non, des visionnaires, assurément.
Donc la seule version qu'on a réellement conservée, c'est la version genre 1.1 ou 1.2 de Gradius, l'original, qui utilisait plus ces putains de mémoires à bulles. Donc la version 1.0, elle est pas perdue, parce que en réalité, on a réussi à en sauver quelques-unes, mais si on n'avait pas fait cet effort-là, elle serait vraiment littéralement perdue. Bref. Et donc, encore plus rare et encore plus difficile à conserver, il y a les prototypes de matériel. Alors c'est déjà... assez rare d'arriver à choper des prototypes de jeux. Mais les prototypes de matériel, c'est un truc... totalement pété.
Ouais, généralement, si on a 3 maxi, c'est beau, quoi.
Ouais, parce que c'est pas des trucs qui doivent sortir beaucoup de chez les constructeurs. Et en plus, à mon avis, ceux qui sont gardés... s'il y en a qui sont gardés... tu dois pas vouloir les montrer tout le temps, quoi, parce que ça reste du prototypage. Je pense que la majorité ont fini la poubelle aussi, hein.
Mais justement, il y en a qui ont fini la poubelle. On se rappelle tous de la fameuse Nintendo PlayStation qui avait fait surface il y a deux ans, trois ans.
Vas-y, Mortal, raconte-nous l'histoire de la Nintendo PlayStation.
Eh bien, c'est simple, Jamy.
Ce feuilleton rocambolesque.
Donc, Nintendo veut développer une extension CD pour la Super NES, s'adresse à Sony, s'adresse à Philips, Sony développe la PlayStation, essaie de baiser Nintendo sur un terme du contrat, Nintendo leur dit d'aller se faire... en papaouté par Tom Nook, signe avec Philips, et du coup Sony boude, parce que Sony, c'est la seule chose qu'ils savent faire, du boudin.
Est-ce qu'il est jaloux du succès de Philips avec le CDI?
Après, faut aussi se dire que Sony, à la base, est un partenaire de Nintendo, pour notamment la puissance de la Super Nintendo.
Tout à fait.
Et que la légende voudrait que... comment il s'appelait déjà?
Yamauchi. Kenji
Kutaragi. Non, c'est Nintendo de l'époque.
Yamauchi
a annoncé ça, alors je sais plus à quel...
CES de Las Vegas en 91-92.
Voilà, mais genre, il a prévenu personne avant, quoi. Il a fait au dernier moment, ah, je change d'avis.
Alors la légende veut, mais en réalité, il y avait quand même une couille dans le contrat entre Sony et Nintendo qui faisait que Sony ramassait tous les royalties sur les jeux qui étaient produits sur CD, ce qui était hors de question pour Nintendo, évidemment.
Ah bah, surtout vu le requin de business qu'est Yamauchi, il n'y a aucune chance qu'il accepte ça.
Voilà, du coup, le projet est mis au placard, mais... un certain nombre de prototypes de la Nintendo PlayStation, donc, sont produits. La Nintendo PlayStation, c'est en fait une console légendaire, du coup, enfin jusqu'à ce qu'on en découvre un prototype presque fonctionnel, qui a un lecteur de cartouches de Super Nintendo et a un lecteur CD. Alors, ça ne lit pas des jeux de PlayStation, à proprement parler. Le PlayStation, c'était juste le nom de cette unité-là. Un peu comme... Sega avait produit une Mega Drive avec un Mega CD intégré qui était fait d'ailleurs par JVC, je crois qu'ils avaient licencié le truc à un autre fabricant, et qui s'appelait la Wonder Mega. Voilà, donc il faut plus le voir comme ça, en fait. C'est le prototype de... on va vendre une extension CD pour Super NES, qui va s'appeler je sais pas trop comment, et il y aura une espèce de version standalone, en fait, avec tout intégré dedans, qui s'appellera la Nintendo PlayStation. Et donc un mec, en nettoyant des bureaux à Seattle, il y a 2 ou 3 ans, tombe sur ce truc-là, sachant pas trop ce que c'est, prend quelques photos, les poste sur Reddit, parce que c'est en général là où ça sort, ce genre de conneries. Tout le monde dit non, c'est un fake, c'est pas possible, machin. Le mec met une cartouche de Super NES dedans, il l'allume, elle marche. Stupéfaction complète. Il y a quelques personnes qui vont le voir, c'est-à-dire qui font le déplacement pour aller voir le truc, et qui confirment, bah non, c'est bien un prototype de Nintendo PlayStation. Donc c'est historique, il est unique au monde. On n'en connaît pas d'autres. Peut-être que Nintendo en a dans ses sous-sols au Japon, peut-être que Sony en a dans ses sous-sols au Japon, mais jusqu'à preuve du contraire, le seul qui est sorti en public, c'est celui-là. Donc il a fait le tour de tous les salons, et il est atterri dans les mains d'un monsieur qui s'appelle Ben Heck, et qui fait de l'électronique depuis très 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 longtemps, et qui a décidé de la réparer, en fait. Alors, de la réparer, et pas seulement. Donc à l'origine, le prototype fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il peut lire des jeux de Super Nintendo, il peut lire des CD audio, donc on sait que le lecteur CD fonctionne, on sait que le port cartouche fonctionne, ce qui est déjà énorme, hein, quand tu y réfléchis, ça veut dire que le truc a pas été abîmé, mais si on grave un jeu sur un CD et qu'on le met à l'intérieur de la machine, marche pas. C'est embêtant. Dans le même temps, le même Ben Heck se dit « Bon, bah, on va aller regarder, voilà, le mec bricole son truc, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube, c'est assez intéressant, il fait ça en 3 ou 4 parties, ça dure quand même une bonne heure et demie, je crois, au total, son truc de réparation, qui explique exactement comment fonctionnent toutes les étapes, hein. C'est vraiment le mec te fait le diagnostic complet plus la réparation. »
C'est au cas où on en trouve une deuxième un jour, quoi.
Bah, au moins, ce sera documenté.
C'est vrai.
Et en fait, le mec t'explique que le prototype, il a été plombé. C'est-à-dire qu'on a rajouté des soudures à certains endroits pour qu'il soit plus fonctionnel. Alors pourquoi, on ne sait pas. Est-ce que c'est une volonté de dire bah, t'as le droit de le garder comme un trophée dans ton bureau, Michel, de la compta, mais faut pas que ça sorte, faut pas que ça se retrouve dans la rue et qu'on puisse l'utiliser. Ou est-ce que c'est parce que c'est un prototype et qu'en réalité les prototypes t'as souvent des soudures faites un peu à l'arrache parce que le truc est pas encore définitif. Peut-être, j'en sais rien. Personne ne le sait. Mais bref, donc Ben Heck non seulement répare la machine, mais en plus va dumper toutes les puces qui sont à l'intérieur, notamment ce qu'on appelle les IPL, les Initialization Program Loader, donc l'équivalent d'un firmware en fait, de sorte à ce que un jour on puisse éventuellement reconstruire le prototype. Donc toutes les puces ont été dumpées, toutes les puces ont été documentées, tout a été photographié dans tous les sens, il y a des schémas qui ont été faits, c'est-à-dire qu'il s'est même cassé le cul, le mec a branché son oscilloscope pour aller vérifier l'état de toutes les puces, comment elles en sont, qu'est-ce qu'elles faisaient, et ainsi de suite. C'est
incroyable.
Voilà. C'est incroyable de faire un boulot de documentation comme ça, dont le seul but est de dire, bah, si un jour on en trouve un deuxième, on pourra peut-être le réparer. Si un jour on en trouve un, enfin si un jour quelqu'un a envie d'aller produire un jeu pour Nintendo PlayStation, donc un jeu pour le CD de la Super NES, il peut
ça
le
va,
faire.
Il y a bien eu des jeux pour la Wii U. Hein.
Celle-là, en termes de conservation, elle va être très compliquée. Hein.
Bordel, ouais. Enfin, surtout, bah, tous les jeux sont sur Switch.
Ouais, mais bon, c'est pas les mêmes jeux exactement. Qui veut faire croire ça?
Ouais, non, mais... il y a Funky Kong dans Donkey Kong Country.
Non, mais mine de rien, tant qu'on n'aura pas rétro-ingénéré le protocole de communication entre le gamepad et la Wii U, tu pourras jamais remplacer un gamepad par autre chose, tu vois. C'est con, hein, mais. Ça va pas être évident. Bref, donc cette Nintendo PlayStation, elle a fait le tour des salons quasiment du monde entier, avec son propriétaire, qui a décidé de la vendre il y a quelques semaines. Maintenant.
Sur une brocante à 10 balles, c'est ça?
Pas vraiment, non. Aux enchères chez Heritage Auction, qui est quand même un truc de vente privée, plus, enfin c'est les enchères un peu de luxe. Et je crois qu'elle a atteint le prix de 350 000 dollars.
Alors, sachant qu'avant, il avait eu une offre...
À 3 millions, il me semble, et qu'on lui avait dit non.
Non, je crois que c'était 1 million, mais ouais, c'était genre beaucoup plus que ce qu'il a vraiment eu aux enchères. Hein.
Surtout que 350 000 dollars, c'est le prix de vente, mais t'as quand même Heritage Auction qui prend 20%, quelque chose comme ça, sur la somme.
Ouais, forcément, hein, ouais. Pas de petit profit.
Pas de petit profit. Business. Après, le mec a été invité dans tous les salons nourri, logé, blanchi pendant 2 ans, donc c'est pas non plus...
Oui, clairement.
Oui. Mais quand on te fait une offre à 1 million, tu dis non, je peux en tirer plus aux enchères, tu la places aux enchères, t'en retires le tiers. Bon.
Bah écoute, c'est que t'as pas été très bon sur ta gestion du cours du navet. Hein.
C'est ça. Exactement.
Mais après, en dehors de ça, c'est quand même très compliqué d'évaluer le prix d'un truc de ce genre-là, parce que finalement...
C'est un prix symbolique. Enfin, on parle d'une machine qui n'a pas été commercialisée, donc, et d'un prototype.
Tu payes la rareté sur un truc qui sert à rien.
Ouais, clairement.
La rareté, le problème, c'est qu'il est unique au monde jusqu'à ce qu'on en trouve un deuxième, quoi.
Non, et puis surtout, fonctionnellement, il n'a aucun intérêt. Parce que il n'y a pas de choses spécifiques que tu peux pas déjà faire avec la machine d'origine ou un lecteur CD acheté à 30 balles dans le commerce.
Bah, ce qui aurait été bien, en fait, moi, ce que j'ai regretté avec cette histoire-là, c'est que c'est un collectionneur privé, finalement, qui l'a récupéré. Alors, c'était le but, c'était d'en tirer un maximum de pognon. J'aurais très sincèrement préféré que le mec accepte une offre à 300 000 dollars d'un musée du jeu vidéo ou d'un groupement de personnes qui en ferait juste don. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un avait lancé un Kickstarter en disant « Bah, venez, on vous foutez 10 balles, on l'achète collectivement et on en fait don à MO5 ou le musée du jeu vidéo dans l'Arkansas aux États-Unis », moi, j'aurais dit oui. Enfin, je veux dire, c'est... Fallait le faire comme ça. Là, ça va être dans la collection privée de quelqu'un et ça va prendre la poussière jusqu'à ce que dans 3-4 ans, le mec le revende probablement le même prix ou moins d'ailleurs, on sait pas. Et enfin, je sais pas, je trouve ça un peu triste, moi, finalement, que. Là, il y a eu de la perte, d'un point de vue patrimoine.
D'un point de vue accès au patrimoine, du coup.
C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que la Joconde de Léonard de Vinci, si tu l'avais redécouverte, enfin. Tu découvres une œuvre de Léonard de Vinci complètement au hasard dans ta cave pour une raison ou pour une autre, est-ce que tu la vends aux enchères ou est-ce que tu en fais don au musée du Louvre ?
Je la vends au Louvre.
Tu la vends au Louvre, ça c'est le truc idéal, ce serait ça quoi. Ce serait t'arrives à en retirer un petit bénéfice parce que bah, quand même tu t'es un peu cassé le cul, même si tu la trouves un peu au hasard en l'occurrence là, mais bon le gars a quand même fait l'effort d'aller, enfin il a répondu à plein de sollicitations pour aller là. Voilà, il a été chez Ben Heck, il s'est déplacé un peu partout dans le monde, alors toujours gratuitement et tout ça, mais. C'est quand même un effort personnel d'aller trimballer ton truc dans des conditions de sécurité. Enfin, il s'agit pas que le... T'imagines, ta Nintendo PlayStation, elle est perdue dans tes bagages à l'aéroport d'Orlando. Il y a de quoi être vénère, quoi. Ça me fait chier. Voilà, bah, tu l'envoies par la poste. Enfin, tu as des trucs où j'aurais la trouille d'envoyer un truc comme ça, de voyager avec un truc comme ça. Moi, ça me stresserait. Hein, je pourrais pas.
T'imagines, tu la perds, quoi. Enfin, au moment d'assurer ton colis, ça vaut combien ? Je sais pas.
2, 3 millions.
Ah tiens, bah, j'ai regardé un petit peu l'histoire de l'offre de prêt, là. Donc,
c'est la vraie histoire.
Alors, il aurait refusé, attention, Thierry Diebold aurait refusé une offre à 1,2 million, mais ce serait été d'un particulier norvégien.
Ah oui, parce qu'on a du pognon en Norvège.
Donc je pensais que c'était une entité publique mais, ou un musée, mais non, apparemment c'est encore un particulier, ou enfin un individu norvégien, dans la news que j'ai trouvé.
Un individu norvégien.
Un individu la
formule,
norvégien.
Le sens de la formule.
C'est ça, c'est jeu actuel.
Mon dieu. Voilà, et dans le genre un peu rigolo, il y a un autre prototype qui a refait surface il y a pas longtemps. Vous connaissez la Sega Saturn?
Sega Saturn Shiro, Sega Saturn Shiro.
Cette console qui s'est vendue aussi bien que la Wii U.
Alors, sauf au Japon. Ouais.
Je crois que la Wii U s'est moins bien vendue, non ?
Au Japon, oui, ça c'est sûr.
En même temps, la Wii U s'est vendue nulle part. Hein.
La Saturn, au global, je sais pas. Hein, parce qu'au Japon, ça s'est vendu comme des petits pains. Mais en dehors du Japon, pas si évident que ça.
Il était vendu mondialement 9,5 millions d'exemplaires. Donc, c'est moins que la Wii U.
Ouais, mais...
Il n'y a même pas eu 1 million en Europe, hein, d'après Wikipédia.
Question d'époque. Ouais, le 1 million en Europe, il fait mal. Mais...
Il y avait moins de gens, je vous rappelle, c'est à l'époque où on n'était que 5,5 milliards hein, sur la planète.
Ouais, à titre de comparaison, la Nintendo 64, c'était 30 millions, donc...
Ok. Ouais.
Voilà, non, mais
et
ça,
la c'est... PlayStation, c'est 125 millions, on ne va pas refaire l'histoire.
Attends, la N64 considérée comme un échec. D'accord.
Donc, 40 millions, je crois.
C'est même pas dans le top 3 des échecs console Nintendo, la 64. Hein. Mm. La GameCube et la Wii U et la Virtual Boy se sont moins vendus.
La GameCube, c'était combien ? 20 millions, un truc comme
c'était
ça.
C'était 22, 23 millions, un truc comme ça. Bon, après, il y avait plus de concurrence. Hein.
Oui, c'était plus dur aussi. Mais bref, donc Sega avait fait un prototype qui s'appelle la Sega Pluto. Donc, il continuait dans le thème des...
Planète.
Des planètes, puisque finalement, alors il n'y a pas eu la Sega Uranus, mais on aurait bien aimé.
Et Uranus.
Mais il y avait eu la Sega Genesis, donc aux États-Unis, il y avait un prototype qui s'appelait la Sega. Merde.
Ouais, c'est son nom. Ouais.
C'est son nom. Qui était en fait une 32X. Enfin,
oui, c'est la Neptune, ça.
Neptune, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Zergy, tiens, qui connaît mieux les prototypes de Sega que moi. Donc la Neptune, elle est morte, et finalement la Saturne, c'est la seule qui soit sortie, et donc ils avaient continué sur le thème des planètes en prenant Pluton. Pas de bol, c'est plus une planète.
C'est bien la couleur. Je l'attendais, celle-là.
Quand on parle de conservation des noms.
Ouais, non, mais voilà, là, ils ont vraiment tout merdé. Et donc la Sega Pluton, en fait, c'est une Sega Saturne. Dans lequel est directement incluse dedans une carte de décodage MPEG que la Saturn n'avait pas. Donc la PlayStation en fait a une carte de un module de décodage MPEG directement dans le processeur. C'est pour ça que la PlayStation peut lire des FMV, enfin des vidéos en fait en jeu très facilement. C'est comme ça que tu as quasiment toutes les intros de jeux PlayStation qui ont une vidéo en image de synthèse des années 90 très très moche. Parce qu'en fait, t'as vraiment une puce de décodage vidéo à l'intérieur de la PlayStation. Je ne sais pas par contre si la PlayStation japonaise lit les vidéos CD, qui était un format très populaire en Asie dans les années 90, et qui n'était pas du tout populaire dans le reste du monde.
De mémoire, non.
Ça mériterait peut-être d'être vérifié, je me souviens pas du tout.
Je sais pas, ils voulaient tellement pousser les DVD à l'époque.
Je crois que la Saturn pouvait les lire avec une carte additionnelle, mais bon.
Bah, justement, voilà. Alors la Pluto, en fait, elle inclut cette carte additionnelle qui est une carte MPEG, puisqu'elle n'avait pas de décodeur MPEG. Et donc elle pouvait lire des vidéos CD. Donc dans la Pluto, tu as directement la carte qui est intégrée dedans. Tu as aussi un disque dur directement à l'intérieur de la machine.
Un modem. Ah si, t'as un disque dur aussi.
T'as un disque dur et un modem. Donc tu as les deux. En fait, c'est l'équivalent du module de la PlayStation 2, la immonde, dans lequel t'avais une prise Ethernet et un disque dur pour pouvoir jouer en ligne. Et sur Saturn, Sega avait déjà un truc qui s'appelait Netlink, qui permettait de jouer en ligne, en fait, sur sa Saturn.
C'était déjà sur Saturn.
C'était déjà sur Saturn.
Ok, je croyais que c'était arrivé avec...
C'était un module optionnel.
Ok.
Et donc l'idée de la Sega Pluto, en fait, il était assez con, hein, c'était de dire, on va intégrer le Netlink à l'intérieur, on va intégrer la carte MPEG à l'intérieur, et on va rajouter un disque dur qui permettra éventuellement de télécharger des jeux. Ils avaient déjà fait l'expérience avec un truc qui s'appelait... SegaNet, je crois, quelque chose comme ça, sur Mega Drive, tu pouvais télécharger des jeux, un peu comme le Satellaview de la Super Nintendo. C'est le même genre de truc, c'est où tu peux télécharger des jeux soit par satellite, par câble, je me souviens plus exactement, mais c'était pas vraiment l'Internet encore. C'était un peu le pré-Internet.
C'était l'IP par Pigeon Voyageur.
C'est un peu ça.
Je crois que le SegaNet, c'était pas par câble, je crois que c'était par câble, oui.
Je crois que c'est par câble.
Mais c'était pas que aux États-Unis, un truc comme ça?
Il me semble que c'était que aux États-Unis. Oui, le truc que les jeunes peuvent pas comprendre. Mais voilà, donc les mecs avaient fait un prototype de ça, et donc, alors officiellement, là on a l'information officielle, c'est quand même suffisamment rare pour être signalé, c'est que officiellement, il y a eu 8 exemplaires produits de la Sega Pluto, qui étaient destinés juste à être testés, en fait, c'est-à-dire vérifier si effectivement... Le bricolage dégueulasse qu'ils avaient fait dedans, parce qu'apparemment c'est quand même... Enfin voilà, il y a des câbles soudés partout, c'est un vrai bordel, c'est Sega, quoi, tu vois. Même dans les Mega Drive que tu trouves dans les brocantes, moi j'en ai ouvert une de Mega Drive que ma femme a généreusement dégotée chez un particulier qui la donnait.
Elle t'a pas pété à la gueule, ça va.
Non, voilà, mais tu l'ouvres, t'as des câbles qui sont soudés dedans, quoi. Je veux dire, les lignes de production de Sega sont faites comme ça, en fait. T'as des chimpanzés à la fin de la ligne qui resserrent les boulons, quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Bref, donc il y a eu 8 exemplaires de produits, et il y en a 6 qui ont été détruits, physiquement détruits. C'est officiel, c'est Sega qui a donné l'information.
Pour sauver l'humanité.
Pour sauver les meubles. Et il y en a donc que 2 existants. Il y en a un au Japon, qui est chez un collectionneur privé. On ne sait pas comment il l'a récupéré. Et tu en as un aux États-Unis chez un collectionneur privé aussi, qui l'a récupéré sur une brocante, il ne savait même pas ce qu'il achetait. Donc il l'a acheté genre 1,50$ dans une brocante il y a 10 ans.
Oh mon dieu.
Et donc, le mec s'est rendu compte quelques années plus tard, attention, hein, le gars pensait que c'était une Saturne, une Saturne custom. Ou,
avec une coque à la con, ouais.
Ouais, voilà, un truc comme ça. Et en fait, qui est arrivé chez lui, il dit, mais attends mec, c'est un truc, c'est pas... C'est une Saturne, oui, ça lit des jeux Saturne, ok. Mais c'est pas une Saturne normale, quoi. Il y a quelque chose de plus dedans. Et donc, il y a une semaine et demie ou 2 semaines, je crois, c'est atterri chez Ben Heck, encore une fois. Le mec qui récupère tous les, tous les prototypes.
Et son fer à souder fou.
C'est exactement ça. Le mec est arrivé, il a fait tourner son fer à souder dans les airs comme ça. Ouh. Il a dit bah, on va l'ouvrir, on va la réparer s'il y a besoin. Alors il n'y a pas besoin de la réparer. Elle fonctionnait. Mais ça permettait de vraiment de la démonter complètement. Il a pris le plus de photos possible du truc pour voir exactement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il a, pareil, dumpé les composants qui devaient l'être, notamment le firmware. Alors il se trouve qu'en réalité, le firmware, bah, c'est un firmware de Saturn American standard, donc ni plus ni moins. Il n'y a vraiment pas de mystère là-dedans, donc c'est déjà conservé, c'est déjà, il n'y avait pas de choses supplémentaires par rapport à ça. Et c'est là que le mec a découvert qu'effectivement, bah, en plus du Netlink, il y avait un disque dur. Et ils ont essayé de le dumper, et malheureusement, le disque dur est cassé.
Ah, j'ai cru qu'il y avait des photos dégueulasses dessus.
Non, il n'y avait pas des photos dégueulasses dessus, on aurait bien aimé. Mais donc voilà, on ne saura jamais ce qu'il y a sur ce disque dur, il est officiellement mort. Donc le seul moyen de savoir ce qu'il y avait sur le disque dur d'une Sega Pluto, ce serait d'aller chercher celle qui est au Japon en espérant qu'il fonctionne. Mais voilà, là il y a une...
Ou alors d'essayer de faire de la récupération de données dessus.
C'est apparemment ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un DD brut du disque en mode... on va juste essayer de récupérer.
Non, mais de l'envoyer à des gens qui font de la récupération de données.
Ouais, effectivement, ce serait peut-être la seule solution pour savoir s'il y a quelque chose dessus. Si ça se trouve, il n'y a rien. Hein, c'est...
Après, a priori, quand t'as un prototype de console Sega, je pense que t'as testé les récupérateurs de données, même professionnels. Non ?
Genre... Bah, je sais pas.
Je sais pas s'ils ont testé ça. Tout ce qui est salle blanche et tout, ça coûte une couille, mine de rien. Mais...
Et puis récupérer des données là-dessus sur un truc qui a 25 ans. Qu'est-ce que t'as comme chance de récupérer quelque chose ?
Tout ça pour que t'aies un fichier .ini qui est vide.
Encore ça, c'est dans le meilleur des cas.
Non, mais il y a marqué si ça se trouve, à y a pas écrire de dedans.
Ouais, voilà, mais tu sais, c'est exactement ça. C'est possible en plus que ce soit ça. Mais voilà, donc le truc il fonctionnait déjà, donc pas de problème. Il a juste réparé genre le capot qui fermait pas bien, ou des conneries comme ça, ou les ports manettes qui étaient mal soudés, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais il a dit c'est vraiment juste une Saturn dans un moule qui est pas la moule de Saturn, qui est un truc autrement, et dans lequel au lieu d'avoir une extension, il y en a deux. Donc il y a la carte MPEG et le disque dur, et qui a un Netlink intégré. Mais basiquement, c'est une Sega Saturn. Il y a bien, ouais, pas de doute là-dessus. Pas de particularité. On n'a pas perdu grand-chose, mais c'est super intéressant qu'on découvre encore ce genre de prototype-là. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir découvrir dans les années à venir. Il y a déjà des gens qui avaient découvert un 64DD américain, parce que le 64DD n'est sorti que au Japon.
Un proto, du coup.
Donc un proto qui a la particularité, en plus, de lire des jeux... alors, il ne lit pas les jeux japonais, parce que c'était déjà, il y avait un blocage régional dessus. Ouais. Mais par contre, il lit les disques de développement, ce qui n'est pas normal du tout. Mmh. Donc il est capable de lire des disques de développement américains ou japonais, ce qui n'est absolument pas normal. Et celui-là, son firmware a aussi été dumpé, de sorte à ce qu'on puisse le conserver, parce que c'est un exemplaire unique au monde, il y a même écrit dessus NUS001. Genre, c'est le premier prototype... de 64DD américain produit, et il n'est jamais sorti du siège de Nintendo of America, sauf quelques années plus tard, on ne sait pas pourquoi, il s'est retrouvé dans une vente de garage, ou sur une brocante, et on ne sait pas pourquoi. Voilà. En tout cas, moi je trouve ça, enfin, je sais pas, la Sega Pluto, moi je trouve ça assez extraordinaire comme histoire, parce qu'effectivement, bah, il n'y en a plus que deux.
Je suis bloqué sur le mec qui l'achète à $1 sur une brocante, quoi.
C'est souvent comme ça pour ces trucs-là. C'est ça qui est fou, c'est que finalement, les gens savent pas vraiment ce qu'ils vendent. C'est les anciens salariés de Microsoft. Il y a une histoire comme ça où il y a un mec qui a récupéré une Xbox, première du nom. Mais pas un prototype, un exemplaire unique.
Et il l'a vendu chez Ikea en table basse ?
Ouais, c'est presque ça. Le mec a récupéré une Xbox qui était distribuée que aux salariés de Microsoft à Seattle. Un truc comme ça. Et donc, il y en a genre 150 qui existent. Et le mec la vendait dans une brocante. Pour $1 ou $2, parce que c'est ça que ça vaut une Xbox.
Mon Dieu.
Et le mec se rendait pas compte que, en fait, bah oui, il avait un exemplaire numéroté, genre 2 sur 150, parce que bah, c'était les Xbox des salariés de Microsoft. Mm. Donc ça vaut pas une fortune, parce que c'est effectivement c'est juste une Xbox, mais bah, $1 dans une brocante, c'est quand même chaud, quoi. Après, la Sega Pluto, ce qui était en plus très très rigolo, c'est ce qu'a montré Ben Heck, c'est que lui, il a cassé un ergo à l'intérieur du truc, Et tu te dis, oh mon dieu, il a cassé un prototype, quelle horreur, oh là là, c'est l'angoisse.
Et là, il a coupé l'épisode et rendez-vous la semaine prochaine.
C'est bâtard. Et il aurait pu faire ça. Et le mec, en fait, s'est rendu compte que c'était un prototype tellement précoce dans le développement que c'était même pas du plastique noir, c'était du plastique blanc qui avait été peint en noir, juste pour voir le look que ça avait.
Oh, mais à l'arrache, quoi.
Sega, mec. Je sais pas si t'imagines quoi, les mecs ils ont pris genre l'imprimante 3D, enfin c'est même pas l'imprimante 3D, c'est même pas un vrai, enfin c'est même pas un vrai moule définitif qui a fait le truc.
On est sûr que c'est pas
bricolé des trucs quoi.
On est sûr que c'est pas un TP de techno d'un fils d'un mec de chez Sega.
Qui a mal tourné.
Ouais.
Ça pourrait hein. Ça pourrait putain, ce serait quand même extraordinaire. Alors attends, oui, on nous dit que le proto de la Nintendo PlayStation a été acheté 75$ parce que le mec avait acheté des boîtes. C'est quoi, des boîtes en carton d'un sous-traitant de Sony aux États-Unis, une vente aux enchères d'un sous-traitant de Sony qui avait fait faillite, tu vois. Bon, le mec rachetait des lots en gros. Putain, c'est génial. Tu réfléchis, je dis putain, les mecs tombent sur des trucs. Donc vous aussi, ça peut vous arriver, hein. Je vous conseille de faire les poubelles d'Ubisoft, peut-être que vous tomberez sur un prototype de Rayman. Faire les poubelles tout court. L'histoire en bas à droite. C'est vrai que dans les poubelles, moi j'ai déjà trouvé une PlayStation 3. Histoire vraie.
Le mec a cru qu'il jetait un barbecue.
Il y a 2 mois, j'ai ramasser une boîte de Super NES.
Une boîte de Super NES dans une poubelle.
Elle était pas en très bon état.
Tu te rends compte que la boîte d'une Super NES, même en mauvais état, tu peux déjà la vendre 20 balles.
Voilà. Ouais.
Facile.
Oh là là.
Enfin bref. Mais voilà, on a heureusement une communauté qui fait de très très gros efforts pour essayer de conserver tout ça, essayer de dumper tout ça. Une que Mortal avait grillé, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas grillé de Super Nintendo en direct, c'est faux.
Pas encore.
Ça n'est jamais arrivé. Non, mais je l'ai réparé après.
Mais ce qui est quand même commun à tout ça, c'est que ça passe que par des particuliers à chaque fois. C'est-à-dire que il n'y a jamais une institution publique ou même privée qui intervient dans le processus de récupération ou de restauration. C'est tout le temps des communautés ou quoi.
Je pense que ils ont pas le temps et pas la thune en fait.
Bon, peut-être aussi parce que c'est pas
le jeu vidéo
est encore très 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 peu considéré comme un art. Enfin, par Pac-Man qui est au MoMA.
Sérieux?
Bah oui, Pac-Man et Automoma, ça c'est vrai. Y a pas énormément d'œuvres vidéoludiques qui sont considérées comme de l'art et qui ont leur place dans les musées actuellement. C'est plutôt rare, donc en fait ça m'étonne pas que le travail de recherche c'est plus des particuliers ou des associations type MO5.
Oui, des passionnés finalement.
Bah c'est ça.
Même une association comme MO5, ça reste juste des particuliers. Au sens où ils sont groupés en associations. Mais je veux dire, ça reste juste des passionnés qui essayent effectivement de dire, bah non, regardez, c'est important. Mais pareil, on se moquait un peu des collectionneurs de jouets dans les années 90. Le fait est, il y en a qui ont réussi à conserver des bouts de plastique, certes, mais des bouts de plastique qui ont aussi une importance historique, parce que ça reste, même si c'est des produits de grande consommation, même si c'est des jouets, c'est-à-dire des choses qui sont pas destinées forcément à être gardées très longtemps ou en très bon état, ça reste un morceau d'histoire malgré tout.
Un reflet d'une époque.
Oui, un reflet d'une époque finalement. C'est au même titre que je vois pas pourquoi est-ce que le grand gagnant de la Palme d'Or Cannes 1985 serait parfaitement conservé, dont personne ne se souvient serait parfaitement concerné, alors que la Tortue Ninja Léonard sortie en 84 qui avait un œil qui disait merde à l'autre ne le serait pas. Les deux sont une forme de culture.
Le grand gagnant de l'Oscar, tu parles de la personne ?
Oui, c'est ça, la personne. D'accord. Qui s'appelait l'Oscar.
Non, je veux dire la personne qui a gagné l'Oscar.
Non, mais j'ai dit la Palme d'Or du Festival de Cannes, j'ai pas dit l'Oscar.
Oh oui, mais c'est-à-dire que la personne qui a gagné la Palme d'Or... c'est parfaitement conservé.
On peut tromper mille fois une personne, mais on peut tromper mille fois mille personnes.
Je comprends pas ce que tu dis.
Ouais, mais moi c'est vrai, ça me choque beaucoup qu'il y ait des œuvres cinématographiques qui finissent par s'être retrouvées perdues. Metropolis est une œuvre perdue. On a plus que 30 minutes du film original.
Doctor Who.
C'est vrai ? Les premières saisons...
Oui, les premières saisons, je crois que t'as... Je vais dire une centaine d'épisodes qui ont brûlé.
Voilà.
Rien que ça.
Et on n'a aucune... Non mais,
C'est oui, Georges Méliès, enfin, mais bon, c'est beaucoup plus ancien, mais je veux dire, il a brûlé, il me semble, la grande majorité de ses pellicules qui sont, bah, du coup, oups, quoi.
Bah, oui, mais la vraie problématique là-dedans, c'est, enfin, t'imagines si le mec qui avait récupéré Nintendo PlayStation, il s'était dit, c'est de la merde, ça vaut rien, pouf, il le jette à la poubelle, enfin, voilà, tu...
Ah, bah, c'est le problème que ça soit géré par des particuliers. Oui, c'est qu'il suffit que même un gars qui est mal intentionné... Oui, oui, bien sûr. Un gars qui se dit, ouais, machin... Enfin, il suffit qu'un gars qui croit s'y connaître en informatique... Et en fait, non, il éclate le prototype. Bon, bah, il y en a plus. Ouais. Oups.
C'est ça, c'est pour ça, si un jour, vous tombez... Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'association MO5 qui le dit. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Parce que ouais, si un jour, vous tombez sur un truc... Une cartouche de développement de N64, une cartouche de développement, une cartouche bleue de 64DD, donc un jeu en cours de développement, quelque chose comme ça, ou un truc que vous pensez être un prototype qui soit sur disquette, sur n'importe quel support, surtout, n'essayez pas de le mettre dans votre ordinateur ou votre console, ou quoi que ce soit, parce que c'est pas des choses qui sont faites pour être mises dans des consoles standards, retail, qu'on vend n'importe où. Et c'est des périphériques et des supports qui ont une certaine tendance à s'effacer plus ou moins tout seul suite à une fausse manip. C'est des ROM qui sont faites pour être effacées en mettant juste un contact électrique, par exemple. C'est des ROM qui sont faites pour s'effacer en les flashant, mais en les flashant réellement, c'est-à-dire en mettant une lumière UV dessus pour les effacer. Donc c'est très 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 facile de se retrouver à effacer ou à abîmer irrémédiablement un support de ce type-là. Donc surtout, ne le faites pas vous-même, allez voir des gens d'une association comme MO5, qui, eux, ont les connaissances et le matériel et le logiciel nécessaire pour aller essayer de dumper ça le plus proprement possible, de sorte à ce qu'on puisse le conserver, ou au moins regarder ce qu'il y a dessus, quoi. Le pire truc qui puisse arriver, c'est que tu vois une cartouche de 64DD, il y a écrit Z, 3 petits points, 64 dessus, et t'essaies de la lire en te disant « c'est peut-être... » le prototype de Majora's Mask sur 64DD, tu la mets dedans, tu pètes tout, et là, t'as tout pété, quoi. T'as niqué la vie.
Il est marqué F03.
Voilà. Non, mais voilà. Ça... C'est forcément arrivé à des gens.
C'est pour ça qu'on n'a pas de F03. Oui.
C'est... Oui, non, mais c'est la seule raison pour laquelle on n'a pas de F0.
Tu tombes sur une cartouche où il y a écrit Earthbound 64, mais surtout, tu n'y touches pas. Voilà, tu la mets dans un sac en plastique noir, le plus noir possible, tu l'emballes et tu vas voir MO5 et tu leur dis s'il vous plaît dumpez ça.
Essaye surtout pas de le faire toi.
Si tu tombes sur un Sonic 5, t'y touches surtout pas non plus, mais pour d'autres raisons.
Si tu tombes sur un Sonic 5, tu as le droit de le brûler, ça nous fait plaisir.
Ça tu peux le mettre dans...
Ça oui voilà, ça tu peux essayer d'y jouer, c'est pas dramatique.
Si tu fais ça, ta console se suicide.
Ce serait rigolo en vrai. Donc, j'espère que ça n'arrivera quand même pas. Ce serait dommage de casser une PlayStation, il en reste plus beaucoup. Enfin, il en reste 120 et quelques millions, mais voilà. Ça devrait aller. Bref, allez, on va se quitter là-dessus. On va vous remercier de nous avoir suivis pendant ce confinement.
Encore.
Je dois vous avouer que là, on va commencer à avoir épuisé à peu près tous les sujets. Un petit peu backlog.
Non, on en trouvera d'autres, t'inquiète.
J'espère qu'on en trouvera d'autres. Alors, on va être tout début mai. Il va peut-être quand même y avoir quelques petites annonces.
Oui,
même
et puis...
si le 3 est annulé.
Nos attentes pour le 3.
J'ai dit non. Non,
qui se déroule.
On avait quelques sujets en réserve quand même.
Puis dans tous les cas, si les gens ont des idées, on a Twitter et forum. Hein.
Tout à fait. Si vous avez des idées de suggestions, de sujets d'émission. Sinon, je vous dis, j'ai retrouvé quelques cartouches en prévoyant l'émission, en me disant, tiens, oui, il y avait ça, on n'en avait pas parlé, et tout ça.
On peut tenter de faire une émission rétro, puisqu'on a du temps pour jouer, après tout.
C'est vrai qu'on pourrait refaire une petite émission rétro, il faudrait juste se trouver un thème. Moi, j'ai fait Resident Evil 3, si vous voulez qu'on parle de Resident Evil.
Alors, ben
moi,
une émission j'ai rétro fait deux intéressante.
On pourrait se faire une rétrospective Resident Evil.
On s'est déjà fait ça.
On a déjà
même
fait.
Si. Ah oui, putain, c'est vrai. J'étais
là. On a attendu 3 heures avec Marta, je me souviens très bien.
Est-ce qu'on a fait le bilan de la 3DS ?
Non, mais on pourrait le faire. À force de l'enterrer, on n'en a jamais fait le bilan.
Maintenant, maintenant qu'elle est morte.
C'est-à-dire pour la Wii U, le bilan, il est rapide.
Tu vas voir. Tu vas voir que Nintendo va annoncer le portage d'un autre jeu Wii sur 3DS histoire de retourner une pièce dans le. Non, mais oui,
il serait capable de sortir un nouveau jeu Wii pour en faire un portage.
Oh putain. Mec, j'attends juste une chose, c'est qu'il fasse le portage du comment dire du jeu coquin d'Ubisoft là, comment ça s'appelait là.
Ah, petit flirt entre amis
3DS.
Avec les Joy-Cons.
Avec les Joy-Cons. Ce serait quand même très très bon. Tu pourrais pas dire que t'as pas envie de l'avoir. Bref. Allez.
C'est conservé ça d'ailleurs.
Oui, t'inquiète. Il y a de nombreux exemplaires, il y a des ROM disponibles, tout va bien. Bref, voilà, on va se quitter sur ces bons mots. On vous dit à dans 2 semaines. Bisous tout le monde.
Ciao.
Bisous.
Bisous.